Vous savez que dans la Bible, on a des divisions de chapitres et de versets. Ça facilite énormément la tâche. Mais là, dans les originaux, il n'y en avait pas. Et souvent, c'est pour raison. Comme là, vous allez voir la fin du chapitre 6, chapitre 7, il y a vraiment un passage à autre chose. Mais aujourd'hui, on va faire, ça arrive des fois, mais on va faire un chevauchement du chapitre 6 et du chapitre 7. Donc, on termine 6, mais on commence 7 aussi. Parce que vous allez voir qu'il y a un fil conducteur que nous allons considérer. Celui de la foi, ou on peut dire la réponse de la foi, parce que le titre du message, c'est la réponse au pain de vie. Et ça, c'est Jésus, hein, qui s'est présenté comme ça dans le chapitre 6. Quelle est la réponse? Et on va voir ça à travers le message. Pour commencer, j'aimerais lire. Et par la suite, je vais prier. Et on va commencer ensemble à considérer ces choses. Donc, je vais lire simplement les versets 1, pas 1, mais 66 à 60 à 66. Bon, on commence bien. Parce qu'après ça, on va lire les autres quand on avance dans le message. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. On va commencer en priant. Seigneur, je te remercie que ce matin, on peut s'arrêter avec ta parole vivante, efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, Seigneur, c'est devant toi, sans rien à cacher. J'espère que personne ne veut rien cacher devant toi. On veut se mettre, Seigneur, tel qu'on est devant toi, pour recevoir sur mesure ce que tu as pour nous autres. Merci que tu es le Dieu de vérité, juste, saint, mais aussi le Dieu de toute grâce et de toute consolation. Seigneur, on prie que tu nous rencontres chacun où nous en sommes et comme Église aussi, pour tes desseins bienveillants envers nous autres. On regarde à toi, on s'attend à toi, Seigneur, pour que tu fasses ta volonté en nous et ici au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, la réponse de la foi au pain de vie, on peut dire pour le médecin, la réponse au pain de vie, Jésus. On peut dire que c'est un sujet bien important ici parce que, comme on le voit ici, première réaction, mais Jésus ne laisse personne indifférent. Et notre texte nous le démontre, vous allez le voir à travers même le reste du chapitre. Et ça révèle quelque chose d'important. Jésus, là, dans tout ce qu'on a vu dans le chapitre 6 révèle des choses, des vérités vraiment uniques par rapport à lui, puis ça l'a engendré des grandes réactions et des réactions qui ne sont pas sans conséquences. Dans le fond, Jésus parlait de lui-même comme étant le pain qui est venu du ciel, hein, en faisant le parallèle avec l'Ancien Testament, la manne que les pères ont mangée. Mais faut comprendre que Jésus, dans le fond, est l'accomplissement de ce qui, dans l'Ancien Testament, n'était qu'une ombre. Il y avait un pain qui a été donné, qui laissait les gens quand même mourir. Je veux dire, ça les nourrissait sur l'instant, mais ce n'était pas un pain qui avait une valeur éternelle. Jésus est le pain qui donne la vie éternelle. Donc, on peut dire que l'ombre était dans l'Ancien Testament, la réalité est en Jésus. Et ça, c'est vrai pour tellement de choses quand on parle l'Ancien puis le Nouveau Testament, parce que tout s'accomplit en Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ donnait à ceux qui l'écoutaient avec son discours de Jean 6 de la lumière supplémentaire sur déjà des choses sur lesquelles Dieu les avait éclairés. Je veux dire, ils voyaient que Dieu est le Dieu qui pourvoit, qui s'occupe d'eux. OK, mais là, on voit que Dieu, il pourvoit, il s'occupe d'eux, mais encore plus loin, avec un pain qui ne périt pas, avec une vie impérissable. Et donc, Dieu amenait les choses plus loin, mais malgré cela, il a été rejeté. Et rejeté pas mal fort, et c'était de plus en plus fort le rejet que Jésus avait. Pourquoi? Parce que les gens étaient offensés par ce que Jésus disait. Comme ça dit dans 1 Pierre au chapitre 2, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » C'est ce qui est arrivé ici, Jésus qui est la pierre angulaire, celui qui bâtit le temple vivant de Dieu. Pour certains, était un honneur, amené à la foi, amené à glorifier Dieu, mais on le voit ici, pour beaucoup, ça a été une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Pourquoi? Ben parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La Bible nous dit aussi que Dieu détruit la sagesse des sages, il rend nulle l'intelligence des intelligents. Et donc, c'est pas avec les raisonnements humains, c'est pas avec la logique humaine que Jésus est venu en amenant des beaux discours religieux que les gens allaient, auxquels ils allaient adhérer puis devenir des meilleures personnes. Non, Jésus venait, c'était scandalisant. Pourquoi? Parce qu'il amenait un message radical de mourir pour les coupables, de venir, lui, juste mourir pour les injustes. Puis toute l'idée de la croix, de ce Messie qui supposément était le roi d'Israël, pour beaucoup, c'est qu'il allait mourir sur une croix, c'était scandaleux, OK? Puis encore là, dire aussi qu'il venait du ciel, qu'il était le Fils de Dieu. Tout ce que Jésus disait était, pour beaucoup, un sujet de scandale. Mais ce que j'aimerais amener ce matin, c'est que, aussi avec ce que Jésus partage ici, dans Jean 6, puis on va voir même avec sa famille au début chapitre 7, la réponse que les gens avaient à ce que Jésus disait, et ce qu'il était, ce qu'il disait être, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Et c'est ça, parce qu'on voit que, en fait, on va voir dans le texte, il y a trois réponses différentes. Soit, dans la première qu'on vient de voir ici, il y avait une réponse qui était irrémédiable, malheureusement, qui a mené à la mort. Il y avait une réponse rédemptrice, on va voir ça à la fin du chapitre 6. Puis il y avait une réponse transitoire, on va voir ça avec les frères de Jésus au début du chapitre 7. Donc, trois réactions éternelles ou réponses à Jésus, le pain de vie. D'abord, on l'a lu, hein, la réaction des faux disciples. Et oui, je prends cette expression parce que vous allez voir pourquoi dans le texte. D'abord, ils disent à Jésus au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, donc tout le discours que Jésus a eu sur « Je suis le pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie », puis bon, tout ce qu'il a dit aussi sur le fait de prendre part par la foi à qui il est, puis son œuvre, en utilisant le langage de manger et de boire, manger sa chair, boire son sang. Donc, après ça, il l'a entendu, puis on dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et quand ici on lit « Cette parole est dure », je pense que c'est plus que ce qu'il venait immédiatement de dire. Là. Par exemple, là, le verset 58 résume beaucoup de choses qu'il a dit. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Ce n'est pas juste à ça qu'il disait « Cette parole est dure ». Ok. En fait, c'est à tout ce qu'il a dit par rapport à lui-même comme étant le pain de vie. L'ensemble de son discours, le pain qui est descendu du ciel, donc dire qu'il est vraiment, qu'il vient de Dieu. Et là, quand ils disent qu'il peut l'écouter, l'idée ici, c'est qu'il peut recevoir de pareilles vérités. Donc, il était outré, il était heurté par ce que Jésus leur disait. D'où la réplique de Jésus au verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Puis verset 62, excusez. « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Donc, ici, on voit que ce qui les scandalisait, c'était précisément le fait que Jésus disait qu'il venait du ciel. Vous rappelez-vous, je vous ai dit la semaine dernière, à 6 reprises, dans le discours de Jésus au chapitre 6, là, sur le pain de vie, il dit « Je viens du ciel ». Ça, ça les scandalisait. Pour ça que Jésus parle de remonter. OK? Parce qu'il est descendu puis le remonter. C'est ça qui était sujet de scandale. Tu dis d'être d'origine divine, céleste, de n'être pas de ce monde. C'est ça qu'il avait de la misère à accepter. Voyons, on te connaît, toi, puis j'allais voir plus loin, là. En tout cas, pas aujourd'hui, mais... Ben oui, en fait, on va le voir en partie, mais plus, ça revient à plusieurs reprises comment les gens l'identifient. Ben non, on le connaît, c'est Jésus, Nazareth, le fils du charpentier. Donc ça, il était choqué par ça. Et regardez ce que Jésus dit pour poursuivre au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et évidemment, quand que Jésus dit ça, il réfère à ce qu'il a dit avant. Tu sais, quand il dit que sa chair est vraiment un aliment, puis qu'il appelle à manger sa chair, puis à boire son sang. Puis si vous êtes scandalisé par ça, puis vous pensez que Jésus enseigne la messe, là, le sacrifice de la messe, écoutez le message de la semaine dernière, parce que je ne vais pas tout répéter, là, mais c'est vraiment une expression de foi qui parle de s'approprier Christ, sa personne et son œuvre. Ce n'est pas une affaire là, de la messe, pas en tout. Okay? Si vous n'étiez pas là pour l'écouter, vous l'écouterez, sérieux, je ne vais pas prêcher le même message. Mais puis ici, en plus, ça va dans le sens, je vous ai dit des paroles qui sont esprit et vie, ce n'est pas littéralement. Là, de, okay? Mais si on voit ici comment ces gens qui l'écoutaient Jésus comprenaient ça, ça les choquait, ça les laissait pas indifférents. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils disaient enseignait que Jésus est pas ce qu'il s'attendait à être. Il est d'origine divine, mais aussi il parle de sa chair et son sang qu'il va donner. Et donc, il pointe aussi au sacrifice qui s'en vient. Donc, tout ça... Ça les choquait, ça les heurtait dans leur façon de voir les choses. Et là-dessus, j'ai retenu un passage qui est tellement important parce que quand on parle de choses spirituelles, il faut voir que c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et nous, nous avons la pensée de Christ. Donc l'homme naturel, celui qui n'est pas sauvé, ne comprend pas les choses spirituelles. Au contraire, quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous enseigne toutes choses, puis nous fait voir ces choses, OK? C'est ça la différence. La différence, c'est le Saint-Esprit dans celui qui a reçu Jésus comme son sauveur. Et je voudrais même rajouter, parce que tout de suite après, dans 1 Corinthiens, là, je vous ai lu la fin de 1 Corinthiens au chapitre 2, mais le début du chapitre 3, voici ce que ça dit. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Et eux comprennent les choses spirituelles, mais ils ont de la misère. » À cause de la chair. Ils raisonnent par la chair, ils agissent par la chair. Donc, il a pas pu leur écrire comme à des hommes charnels, mais comme à des enfants en Christ, hein, qui étaient au petit lait, qui n'étaient pas à la viande. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Donc, des chrétiens, mais là, à comprendre, à cause qui n'était pas... Justement, l'esprit qui vient en lui, il l'attristait, il ne se laissait pas guider, enseigner par l'esprit, mais il était dans les raisonnements de la chair qui obscurcissaient ce que, ici, dans le contexte, Paul leur dit. Puis, on peut dire, c'est un peu la même affaire, on voit ça dans les évangiles, ici, il y a des gens qui ne croyaient pas, hein, les faux disciples, il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Les disciples, des fois, avaient de la misère à comprendre. Des fois, ils avaient leur raisonnement charnel et tout ça. Puis, il y a d'autres fois, par contre, que tu vois que, hey, wow, là, c'est vraiment l'esprit qui était à l'œuvre et tout ça. Fait que, il y a ça aussi dans les évangiles. Puis, on peut dire aussi pour nous, et c'est ma question, quel est en ce moment l'état, ta condition spirituelle? Et je dis ça comme une question introspective. Premièrement, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne lui appartient pas. Quand on est sauvé, on est scellé par l'Esprit de Dieu. Quand on a Jésus, il vient habiter en nous par son Esprit. C'est le commencement de la vie chrétienne. Mais une fois qu'on a l'Esprit, des fois l'Esprit n'a pas tout de nous. On peut l'attrister. On peut se laisser distraire, embrouiller par toutes sortes de choses. Il y a tellement de possibilités. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de chrétiens charnels. Puis là, il y en a, je veux juste amener une petite parenthèse ici. Quand on parle de chrétiens charnels, il y a deux extrêmes. On a déjà eu ça ici à un moment donné, pour revenir à ceux qui étaient là depuis un bout. Hey, ça se peut pas un chrétien charnel, ça n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Okay? Ça, c'est un extrême. Et je ne crois pas à ça. L'autre extrême, c'est lui, il agit comme le diable, il fait tout ce qu'il veut, puis toi, c'est un chrétien charnel. Ça, c'est un autre extrême, c'est aller donner une assurance à quelqu'un qui ne montre pas de signe du salut, d'avoir l'esprit. Je suis un chrétien charnel. C'est deux extrêmes. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est un enfant de Dieu, mais il attriste l'esprit de Dieu. Et quel est le type dans l'Ancien Testament? C'est qui, monsieur chrétien charnel, dans l'Ancien Testament? C'est Lot ou Samson, c'est vrai. Samson, il est même énigmatique. Ouais, ça a eu. Des fois, tu sais, les autres sont-ils vraiment sauvés? Mais Lot, pourquoi Lot, c'est l'exemple qu'on peut vraiment prendre avec certitude? C'est parce que le Nouveau Testament dit qu'il était un juste. Fait que, tu sais, on peut avoir des doutes sur Samson, sur Saül. Tu sais, parce que là, tu dis, ouais, étais-tu vraiment sauvé? Bon, là, c'est pas le sujet du message aujourd'hui. Mais Lot, la Bible dit qu'il tourmentait journellement son âme juste. OK, fait que c'est clair que la Bible tranche qu'il était un juste, un saint de l'Ancien Testament, mais il faisait des mauvais choix, et il était pas comme Abraham qui marchait par la foi, qui face au choix a dit, « Seigneur, je me confie en toi. » Non, lui, il marchait par la vue. « Ah oui, ça, c'est une belle place. Sodome et Gomorrhe. » Parce qu'avant que le jugement tombe, c'était comme un jardin de l'Éternel. Là. C'était florissant et tout ça. « Ah oui, ça va être sûrement une bonne place. » Disons que c'est ça. C'est vraiment un type, vous étudierez la vie de Lot, c'est un type de celui qui n'est pas conduit par l'esprit, mais qui se laisse égarer par les désirs, les pensées de sa chair. Bon. C'est pour ça que je vous demande la question, c'est quoi ton état spirituel? Est-ce que tu es conduit, rempli par l'esprit? Et c'est une bonne question à se demander, puis en passant, il n'y a pas de conditions irrémédiables. « Ah, moi, je suis un chrétien charnel, je suis condamné à vie à être chrétien charnel. » Non, la repentance, là, c'est justement pour ça, là, tu sais. Puis aussi, il n'y a pas de « Ah, moi, je suis un chrétien spirituel, merci que je ne suis pas Seigneur comme ça. » Non, tu sais, que celui qui croit debout prenne garde de tomber, là. OK, donc, il faut juste faire attention de ne pas se penser de bon ni d'un bon ni de l'autre, OK? Maintenant, quand on regarde le verset 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et j'ai mis comme parallèle ici, comme référence parallèle 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, ça, on va dire, c'est le côté humain. La foi, puis bon, évidemment, Jésus, lui, voyait tout clair dans tout ça. Mais regardez juste après, hein, côte à côte, ça arrive souvent, ça, dans la parole de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit au verset 65? Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si ce nom lui a été donné du Père. » Un peu comme c'est dit au verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Encore là, voyez-vous, les deux côtés, côte à côte, souveraineté de Dieu, responsabilité humaine. On a ça un à côté de l'autre ici. Puis, des fois, les gens vont débattre, puis là, les desseins de Dieu, son conseil secret et éternel, puis là, des fois, les gens s'enfargent là-dedans, puis tout ça. Ce que je veux dire là-dessus, un peu comme avec l'ami de Job, Élieu, qui défend Dieu, il dit, Dieu, là, il peut faire ce qu'il veut, puis tu peux rien reprocher à Dieu. Puis si vous lisez honnêtement, là, Romains 9, 10, 11, allez voir que c'est le point, il défend Dieu. Il dit, on appelle ça une théodicie, c'est-à-dire, il défend les voies de Dieu, que Dieu est toujours juste, tu peux pas t'attaquer à lui. Puis là, je vais pas rentrer dans Romains 9, 10, 11, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est ça, ici, comme ça qu'il faut comprendre, Dieu est toujours juste et ne peut être que juste. La question, c'est comment je réponds à ça. Des fois, on peut dire, « Ah, ben là, Dieu, t'es pas juste, donc moi, j'ai raison. » OK? C'est ça le problème. Parce que Tu ne peux pas prendre Dieu en défaut. Mais si tu essaies de faire ça, ça montre toi, ton cœur, comment, dans le fond, tu es incrédule, tu es orgueilleux. Tu t'opposes à Dieu, tu te prends pour Dieu, tu penses que tu sais mieux que Dieu. C'est ça le vrai problème fondamental. Les gens disent, « Ah, Dieu, c'est pas juste qu'il fait ci, puis qu'il y a ça, puis... » Tu es en train de déclarer comment toi, ton cœur devant Dieu, est orgueilleux et incrédule. OK? C'est plus ça qu'il faut comprendre, parce que des fois, les gens, là, ils veulent s'élever avec ça. Des, ben là, cette chose-là, là, c'est pas correct. Ou, en tout cas, je pense qu'on doit simplement considérer ces choses avec humilité. Puis là, on a le fameux, excusez, j'ai étudié, oui, 65, 66, plusieurs, hein, dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Je les ai appelés des faux disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ne semblent pas, d'après le reste de l'Évangile, que ces gens-là sont revenus et tout ça. Puis ça dit qu'ils n'allèrent plus avec lui. Je crois que ici, on voit le rôle révélateur de l'adversité. Puis là, comprenez-moi, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas un là-dedans qui était sauvé et tout ça, mais... Si quelqu'un abandonne Christ complètement, ça montre qu'il n'a jamais été sauvé, qu'il n'y a pas eu la régénération. OK? Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on peut vraiment voir qu'ici, puis selon toutes les Écritures, comment quand quelqu'un qui a professé puis qui abandonne complètement, Dieu ne lui donne pas le sceau d'approbation de dire « Ah non, c'est quand même un enfant de Dieu » ou justement « Ah, c'est un chrétien charnel ». On ne peut pas avoir de base scripturaire pour donner de l'assurance à quelqu'un comme ça. Mais ce que je veux souligner, c'est le rôle révélateur de l'adversité, de l'épreuve de la foi, de l'épreuve de l'adversité, qui est vital, et on le voit ici, pour comprendre pourquoi Dieu envoie la souffrance, l'adversité, pourquoi il permet du rejet dans notre vie, des choses qu'on n'aime pas, c'est pour soit purifier la foi ou montrer si la foi est authentique, si elle est vraiment là. Parce que ici, on voit, bon, il y avait un scandale et tout ça, mais rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre, puis il s'adressait à Pierre, mais il parlait à tout le groupe, il dit, Pierre, non, en fait, il dit pas Pierre, il dit Simon, Simon. Ça, c'est dans Luc 22. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Fait que là, il était le sujet de l'attaque de Satan lui-même, puis on sait que, bon, le berger a été frappé, les brebis ont été égarées. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils sont tous retournés au berger. Donc, ils ont été scandalisés. Oui, effectivement, ils ont abandonné Jésus, mais ils sont revenus. OK? Puis on va le voir bientôt dans les versets, dans le prochain point. Donc, voyez-vous, l'adversité, l'épreuve a révélé et purifié la foi. Fait que si, ici, comme on peut en déduire, ces gens-là ne sont pas revenus à Jésus, ça leur a révélé qu'il n'y avait pas la foi authentique. Et c'est d'ailleurs un point qui revient souvent. Jean fait beaucoup cette distinction-là, la foi qui sauve versus celle qui n'est que passagère, celle qui n'est qu'intellectuelle. OK? À travers l'Évangile de Jean, c'est beaucoup souligné cet aspect-là. Et d'ailleurs, n'est-ce pas aussi ce qu'on apprend par la fameuse parabole des semences, hein, et des sols, que des fois, ça tombe dans certains sols, mais que ça ne porte pas du fruit, ça peut avoir un effet immédiat, mais ça, c'est pas à long terme, puis qu'il y a une terre dans laquelle la semence tombe et ça porte du fruit qui dure. Et la bonne nouvelle là-dedans, par contre, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Des fois, on va dire à des gens, « Ah, il a abandonné. » Puis ça commence à arriver souvent dans une église, des gens qui viennent, sont tous en feu, puis là, hop, on les perd, on les revoit plus, puis on dit, « Ah, ils n'ont sûrement pas sauvé. » Ben peut-être, mais c'est pas ça qui devrait être l'objet de notre attention, c'est il faut qu'il revienne à celui qui a abandonné. Peut-être qu'il l'a abandonné comme un peu les vrais disciples pour un temps, pour revenir à lui. Peut-être que justement, il n'était pas sauvé, mais la solution, c'est la même, c'est de revenir à Jésus. Pour être sauvé ou pour retourner à celui qui nous a sauvés. C'est ça, puis je veux dire, c'est tellement important qu'on comprenne ça, parce que des fois, comme chrétien, on peut être dur là-dessus, on donne du rejet. « Ah, tu crois pas? » Puis c'est comme si on l'abandonne, la personne, tu sais, ah ben là, attends, t'as rejeté Dieu, tant pis pour toi. Non, justement, on doit croire que Dieu est plein de miséricorde et de grâce et que la personne peut toujours revenir. Il faut faire attention, des fois, on a des paroles dures et de condamnation, puis on peut avoir raison de dire, ah, cette personne-là, je ne vois pas les fruits du salut. Mais il faut faire attention quand on va sur ce terrain-là. Premièrement, pour ne pas se prendre pour Dieu, encore une fois, mais aussi pour ne pas diminuer le Dieu de toute grâce et de toute consolation. Jésus a dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. N'importe qui, là, même celui qui a abandonné, qui a tellement fait des niaiseries, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on peut toujours retourner à Dieu. Et on ne doit pas perdre ça de vue. Ça m'amène à la deuxième réaction, donc celle des faux disciples. Et maintenant, la réaction des vrais disciples au verset 67 à 71. Jésus donc dit aux 12, là c'est le groupe restreint des 12, les 12 apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc, le verset 12, on peut, pas 12, pardon, 67, où est-ce qu'il s'adresse aux 12, puis on pourrait dire, hey, ça aussi c'est une parole dure, c'est comme les gens, ils sont partis, OK? Puis là, si on vire vers les 12 apôtres, puis vous aussi, partez-vous, après, wow, Jésus... Ça ne te dérange pas de ne pas être populaire. Disons que c'était pas un... Tu sais, le mouvement moderne, il faut attirer le plus de monde possible. Il y a déjà du monde qui part, puis ils sont vivants vers ceux qui restaient, qui étaient... Vous autres aussi, partez-vous. Évidemment, on sait que Jésus n'était pas insécure, puis il était... Je veux dire, mais... On peut dire que c'est une parole dure. Pas de rejet, mais je crois ici que c'était encore là un moyen de révéler la foi qu'ils avaient et comment c'est tellement bien exprimé. On aime, et pour... une bonne raison, on aime le verset 68 et on le cite souvent, hein? Simon-Pierre, qui souvent mettait le pied dans la bouche au grand complet, mais ici, il a dit une tellement belle parole, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » N'est-ce pas vrai, quand on est un enfant de Dieu, qu'on a trouvé Jésus, notre vie, notre salut, notre délivrance, on ne veut plus aller nulle part. C'est-à-dire, on a celui qui a les paroles. Ça, c'est la foi qui s'exprime comme ça. Et c'est les vrais enfants de Dieu qui s'expriment comme ça. Et ça, je dirais, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est la foi qui sauve, la foi qui vient par l'Esprit de Dieu. Et c'est le fruit de la nouvelle alliance, hein, la nouvelle alliance qui avait été promise, qui est surnaturelle. Tous seront enseignés de Dieu et Dieu qui nous donne un cœur nouveau. Donc, c'est ça ici qui ressort dans ce beau verset. Et ça nous amène au verset 69 qui dit « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et quand je dis foi surnaturelle, c'est parce que l'objet de la foi est surnaturel. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. On croit à qui tu dis être. Puis là, ici, ça vient des lèvres de Pierre, qui a eu de la misère à accepter ce qu'il allait faire. Fait que ça venait pas de Monsieur le Parfait qui a tout compris, là. Parce que Pierre, là, si vous regardez dans Matthieu spécialement, c'est souligné qu'il avait bien compris qui Jésus était. Comme il dit là, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a commencé à parler qu'il allait aller à Jérusalem, mourir dans les mains des impies? Ça, c'est son œuvre, c'est la croix. Là, il y avait de la misère à l'accepter. Fait que encore là, on voit la grâce de Dieu, puis on voit que la foi, là, c'est un projet en construction. Pierre, là, wow, merci. On voit vraiment ici que sa foi dans la personne de Jésus était établie, mais il n'était pas parvenu. Puis Dieu était patient avec lui. Vous savez pourquoi? Il a grandi dans sa foi à travers l'épreuve, parce que ça a été vraiment un coup dur pour Pierre quand Jésus a été livré. Puis là, bon, on connaît le soir qu'il a eu son... comment on dit en anglais? Est-ce que ça se dit en français une cour de kangourou? À Kangaroo Court, là. En tout cas, c'est quand il était là en procès, mais c'était... Je pense qu'on dit un procès bidon, je crois. C'est la bonne expression. Je sais pas ça vient de où, kangourou, là, mais bon. Ça a été dur pour lui, puis la réalité a frappé, puis Jésus l'avait averti, puis tout ça. Mais encore là, la foi s'est accrochée à ce qu'il connaissait de Dieu. Puis en passant, ça amène un point tellement important. Tu sais, des fois, on a de la misère avec les voies de Dieu. Pourquoi Dieu, tu permets ça? Pourquoi ce chemin-là? Puis, okay? Ou pour le dire autrement, de la misère avec l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais ici, on peut voir comment, quand on s'accroche à ce qu'on connaît de Dieu, à qui Dieu est, le fameux qui, là, Mais à un moment donné, ça finit par nous ramener à la bonne place par rapport à ces voies qui, des fois, nous dépassent, on a de la misère à les accepter. C'est une valeur sûre, s'accrocher à ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'il nous dit qu'il était. Et c'est ce qui a fait de la différence dans la vie de Pierre et des apôtres. Et c'est là qu'on voit que l'épreuve de la foi, comme ça dit dans 1 Pierre, a un rôle formateur. En fait, ce n'est pas quelque chose à fuir, c'est un trésor à rechercher, à chérir. Pourquoi? Parce que ça nous solidifie, ça nous ancre en Jésus. Parce que pensez-y, comment on aurait pu, puis là, c'est-tu un anglicisme, ça? À toutes les fois que je l'écris, je me demande tout le temps, mais réaliser. Je l'ai vérifié dans le dictionnaire, le petit Robert, et ça le dit dans le sens que nous on le dit, mais il y a des gens qui disent que c'est un anglicisme. Mais pourtant, c'est dans le petit Robert. En tout cas, là, je vais le dire. Comment peut-on réaliser, se rendre compte, ou s'approprier que personne ne satisfait sauf Jésus tant qu'on n'est pas passé par l'épreuve de la foi? Ça peut être des belles paroles, mais quand on le vit, ou pour le dire autrement, comment est-ce qu'on peut apprécier la réalité, que ce soit notre trésor, le fait qu'on a tout pleinement en Jésus, tant qu'on ne s'est pas rendu compte par l'épreuve que sa grâce, elle est suffisante, qu'effectivement, c'est vrai, c'est concret, Dieu nous rejoint là où on est. Puis effectivement, je suis complet en lui. Si on n'avait pas l'épreuve de la foi, on parlerait en théorie, on aurait des idées là-dessus, mais le vivre dans le profond de notre être, puis quand on le chante, puis ça résonne dans nos cœurs, c'est par l'épreuve de la foi. Puis là, on voit un très, très puissant exemple de ça. Regardez les apôtres dans les évangiles, puis déjà, je veux dire, il n'y avait pas tout faux, là, mais regardez la transformation, puis tu sais, c'était toute qu'une épreuve, là, que leur sauveur qui mettait sur un si haut estime et à juste raison, là, ils étaient sur la croix, puis là, on dirait qu'ils ont tout perdu, puis regardez la transformation avec la résurrection, l'ascension, comment ils étaient dans le livre des Actes. C'est le fruit de l'épreuve de la foi. Le juste vivra par la foi. Et on peut lire ensuite, au verset 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon. » Et vous savez, des fois, c'est là aussi que la doctrine de l'élection ne peut nous rassurer. C'est au bout du compte, là, je suis content que tout ne repose pas sur mes épaules, que c'est-tu sur moi, j'ai-tu bien cru, puis tout ça, mais Dieu connaît toutes choses de toute éternité, puis il nous connaît quand on est ses enfants de toute éternité. Ça fait du bien. Verset 71, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Et donc, la réalité du jugement, elle a frappé. La réalité sur les cœurs, c'est Dieu qui finalement fait connaître toutes choses. Donc, on n'a pas, nous, à s'inquiéter, à essayer, avant son temps, de révéler l'état des cœurs. Dieu est bien capable de le faire, parce qu'on a su, effectivement, parce que je vous rappelle que Judas, personne n'avait pointé du doigt, c'est lui. Mais Dieu l'a révélé en son temps. Donc, au lieu d'essayer de jouer à la police du salut, savoir s'il est sauvé ou non, puis es-tu vraiment un vrai disciple ou non, laissez Dieu s'occuper de ça. Il est très bien capable de révéler les choses en son temps. Ça m'amène à la troisième réaction. Et là, c'est dans le début du chapitre 7. La réaction de la famille. Et vous allez voir, c'est spécial parce que... Ben d'abord, regardez le verset 1. Juste situer un peu le contexte, OK? Parce qu'on change de chapitre, il y a un changement de contexte. Après cela, donc là, après tout ce qu'on vient de voir, là, le discours et tout, Jésus parcourait la Galilée quand il voulait séjourner en Judée, ça c'est là où est Jérusalem. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Galilée, c'était plus tranquille, il y avait moins de monde, tandis que la Judée, Jérusalem, la frénésie religieuse, puis là en plus, verset 2, la fête des tabernacles qui était proche, tout ça amenait beaucoup de monde, beaucoup de frénésie. Puis là, celui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, il y avait vraiment un danger ici pour Jésus. Puis c'est pas que Jésus avait peur de mourir, c'est juste que c'était pas son heure. On va voir ça dans un instant. Et donc, si on comprend ici ce qu'il y en est, on voit que Jésus avait ce discours du chapitre 6 qui a enflammé les passions. La réaction est de plus en plus. La réaction n'était pas juste de la haine, mais c'était même meurtrier. Il voulait le faire mourir, OK? Donc, c'est pour ça que Jésus est allé en Galilée. Et là, ça nous dit qu'au verset 2, c'était la fête des tabernacles, là, la fête des tentes. Et c'est une des trois fêtes où est-ce que tous les Juifs étaient convoqués à Jérusalem. Il y avait la fête des tabernacles, c'est à l'automne. Puis au printemps, il y avait la Pâque et la Pentecôte, ou Shavuot, la fête des semaines. Là. En tout cas, il y a différentes façons que c'est appelé. Et ça, c'est évidemment, ça voulait dire que des grandes foules étaient à Jérusalem. Okay? Parce qu'il y avait des pèlerins de partout, non seulement en Israël, mais il y en avait qui venaient d'ailleurs, okay? Dans les régions avoisinantes, autant que c'était possible de se rendre. Et là, ça nous aide à comprendre ce qui vient par la suite. Parce que là, on a le contexte. Puis regardez ce que l'on peut lire au verset 3. Et ses frères, là, c'est les frères de Jésus. Oui, Jésus avait des frères. On a parlé de ça hier dans le cours de théologie, mais... Puis qu'est-ce qu'ils lui disent, les frères de Jésus? « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » OK. C'est quoi ça veut dire, hein, au juste, qu'est-ce qu'ils disent ici, les frères, au verset 3 et 4? Ben, quand on comprend que là, il y avait plein de monde à Jérusalem, des grandes fêtes où est-ce que tout le monde se rendait là-bas. La fête, c'était à Jérusalem. La fête, les trois fêtes, c'était là. Ben, les frères voyaient dans cette fête une occasion pour Jésus de monter en popularité. Puis, hey, montre-toi toi-même, là, tu sais. Hey, t'es le Messie, là, t'es... Mets-toi de l'avant comme celui, là, que les gens attendent. C'était ça leur pensée. Montre-toi comme ce sauveur politique, celui qui va enfin nous débarrasser de Rome. C'est ça qui était derrière leur pensée, parce qu'elle dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas ce qu'il disait lui-même d'être. Il y avait l'idée de ce qu'il était, mais ce n'était pas ce qui était révélé qu'il était en réalité. Donc, pour eux, ils voyaient une occasion ici de le faire connaître, et que Jésus se fasse connaître. Mais ici, allons un peu plus loin, parce qu'il faut comprendre aussi que pour les Juifs de l'époque, et spécialement pour le leadership spirituel, il y avait c'était pratiquement une obsession pour le pouvoir. Et là, je vous explique, ça va vous aider à comprendre encore plus un peu ici. Vous savez, Jésus, là, c'est quoi les deux grandes affaires qui avaient vraiment des problèmes avec le leadership et avec Israël, ceux qui ne croyaient pas en lui? C'était le fait qu'il disait qu'il était Dieu, sa divinité, mais aussi qu'il violait le sabbat, OK? Puis là, on voit ça souvent dans les évangiles, Jésus qui déclare « Je suis le maître du sabbat », puis comme là, on a vu « Je suis venu du ciel ». Pourquoi c'était tant une réaction? Parce que ça remettait en cause, puis là, le levier, la mainmise que le leadership spirituel d'Israël avait pour opprimer le peuple, le tenir assujetti. Parce qu'avec le sabbat, hey, tu ne peux pas faire ci puis ça, OK? Puis Jésus qui remettait en question tout leur monde, toute leur religion, puis qui disait être de Dieu, fait que là, ça lui donnait l'autorité bien au-dessus d'eux autres. Là. Pour ça, parce que dans le fond, ils mettaient en cause leur pouvoir sur le peuple, leur mainmise, OK? Pour ça qu'il y avait tant une réaction. OK, il y avait un côté théologique, bon, voyons, tu ne peux pas être de Dieu puis tout ça, mais OK? C'était plus que ça, c'était le pouvoir. Puis « follow the money », parce qu'il y a de l'argent qui vient avec ça, évidemment. OK? Puis là, ça nous aide à comprendre. Les frères, là, justement, « Hey, enfin, on ne sera plus sous le pouvoir des Romains qui nous chargent des taxes, qui font en sorte qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, puis qu'on est limité dans... » OK? Fait qu'il y avait toute une question de pouvoir en l'air de ça. Fait qu'ils voyaient, « Jésus, tu vas prendre le pouvoir sur eux autres. » Parce que les frères de Christ n'avait pas encore cru à sa mission qui est venue. C'est quoi? Jésus, ça veut dire quoi? Sauveur. Puis pourquoi il s'appelle Jésus? Parce que l'ange, quand il a apparu à Marie, il dit, tu vas l'appeler Jésus parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est lui qui va délivrer du péché. C'était ça la mission de Jésus. Ésaïe 61, tu sais, c'est une mission de délivrance spirituelle. Il venait pas d'abord, oui, c'est le lion de la tribu de Juda, puis oui, il va régner avec une verge de fer sur les nations depuis Jérusalem, mais ça, c'est pour plus tard. Jésus, quand il est venu la première fois, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde et tout ça, donc c'est ça ici qui était dur à accepter. Donc, il venait pas pour une opportunité politique, il venait pour établir son royaume spirituel. Et donc, c'est à la lumière de ce contexte-là que la réponse de Jésus prend tout son sens lorsqu'il dit au verset 6, Jésus leur répondit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Ça vous tente que je vous dis, tu sais, des fois, on est dans les évangiles, c'est quoi que ça veut dire, ça, votre temps est toujours prêt? Voulez-vous que je vous le dise ou on parle de d'autres choses? L'autre jour, il y a un prédicateur qui a fait ça, un passage. Tu sais, quand Jésus a dit, j'ai vu, tu sais, ils sont venus, il dit, les démons même nous obéissaient, puis il dit, j'ai vu Satan, là. C'est la première fois que j'entends une explication qui a du bon sens sur ce passage-là. Et là, je vais divaguer si je vous le dis. Vous viendrez me voir après. Non, sérieusement, c'était tellement simple, mais je me disais, ben oui, that's it. Fait que ça, vous m'en reviendrez là-dessus. Puis là, je vais vous expliquer, c'est là, ici. Je relis, OK? Verset 7. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. C'est quoi? C'est la croix. Le temps de Jésus, c'est la croix, évidemment, OK? Mais votre temps est toujours prêt. Eux pensaient en termes politiques, puis couronner Jésus roi, comme on a vu dans le chapitre 6. Vous autres, vous pourriez tout le temps agir. Donc, moi, mon temps, c'est spécifique, c'est la croix. Vous, là, avec vos politiques, c'est tout le temps. Tu sais, les politiciens, il y en a tout le temps, puis il y a tout le temps des occasions politiques. Vous, votre temps est toujours prêt. Avec vos manigances politiques, puis vous, pour me faire roi. Mais le mien, moi, je vais devenir roi à la façon de Dieu, puis ça, c'est mon temps, c'est la croix. Et c'est drôle ici parce que le mot qu'il prend pourtant, c'est vraiment, ça réfère à un temps spécifique. C'est pas une époque, c'est, non, le temps, puis c'est quand justement il est allé sur la croix. Et eux autres aussi voulaient faire justement connaître Jésus, comment eux pensaient qu'il était. Vous allez toujours avoir l'occasion de faire ça. Mais moi, me faire connaître comme je suis, ça c'est seulement par la croix. Comprenez-vous, eux autres, ils disaient, on veut te faire connaître comme le Messie politique. Tu sais, vous allez avoir toutes sortes d'occasions, parce que là, je vais à Jérusalem, puis, tu sais, Hosanna, quand il est rentré, la rentrée triomphale à Jérusalem, hein, vous avez votre temps, là, parce qu'ils pensaient tous que c'était, hey, enfin, c'est venu le moment. Fait que leur temps était toujours prêt, mais le temps de Jésus, la croix, ça, c'était unique. Là, il révélait qui il était vraiment. Et c'était son heure de gloire. C'est sorti dans le temps de prière ce matin. Et c'est là qu'il faut voir aussi, la pensée de ce monde ne peut pas nous aider à comprendre qui Dieu est, ni ses voies. Et évidemment, il y a quelque chose d'important à comprendre là-dessus. La pensée ou le concept que si je donne aux hommes ce que leur cœur désire, OK? Pensons, exemple, évangile de la prospérité. Ben, si je leur donne ce qu'ils désirent, ça va être la voie vers leur conversion. OK? Alors, je vais leur dire que Dieu, il va leur donner des beaux gros bijoux, puis des bagnoles, puis tout le kit. Fait que là, ils vont dire, waouh, Dieu est donc merveilleux, puis là, je vais me convertir. C'est erroné, en fait, je dirais, c'est antéchrist. C'est contre la voie de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour combler les désirs des cœurs non régénérés. Il est venu pour exposer la méchanceté du cœur humain puis l'amener à la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste a fait ça, il prêchait, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus a fait la même affaire. Puis, je veux dire, c'est partout dans les Écritures, Jésus n'est pas venu pour essayer d'améliorer la condition humaine comme ça avec des belles paroles. Non, il est venu pour transformer radicalement le cœur humain en donnant un cœur nouveau. Donc, on est vraiment loin de la coupe aux lèvres lorsqu'on parle du pragmatisme. Qu'on voit trop souvent, malheureusement, dans ce qu'on appelle la chrétienté, et qui, en fait, pour la majeure partie, n'est pas la réelle chrétienté authentique. C'est du charlatanisme, c'est faux. Beaucoup de ces gens-là sont des faux prophètes, ils font pas l'œuvre de Dieu, en fait, ils font l'œuvre du malin en trompant les gens, en pensant que, j'ai la faveur de Dieu, il a répondu à ma prière, mais ils connaissent pas leurs conditions devant Dieu, ils voient pas leurs besoins de miséricorde, leur perdition et leur besoin d'être sauvés. Donc, ils passent complètement à côté de l'essentiel. Et pensez à ça. Qui Jésus a dit qu'il était le plus grand des prophètes? Il était vraiment ordinaire, Jean-Baptiste, quand il pense. Il n'a pas fait de miracles comme Élie et Élisée. Il n'a pas écrit des grands... Ésaïe qui a écrit un grand livre de prophétie, puis il n'a rien écrit. Pourquoi il était si grand? Parce qu'il était juste avant. Celui qui est l'accomplissement de toutes les Écritures. La grandeur de Jean-Baptiste, ce n'était pas parce que lui était ou ce qu'il a fait, c'est de parce qu'il précédait le plus grand de tous. Et c'est pour ça que beaucoup ont cru en lui. Fait que voyez-vous, ça nous montre. C'est pas parce qu'il a fait plein d'affaires qui flashent, c'est parce qu'il présentait celui qui est là. Et laissez-moi vous dire, on n'a pas besoin d'artifices, de tambours et trompettes, si on présente l'Évangile tel qu'il est, clairement et simplement, c'est à ça que les gens veulent répondre. Voulez-vous qu'ils répondent à nous, ce qu'on fait avec nos gamiques chrétiennes, ou qui répondent à Dieu son évangile. C'est encore là une question de foi, d'orgueil versus l'humilité, d'incrédulité versus la foi. Est-ce que je fais confiance que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Si je prêche l'évangile, c'est ça que Dieu va prendre pour sauver les gens. Et ça m'amène au verset 8. Verset 8 et 9, ça va être notre conclusion. Donc, j'ai pas lu le verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Excusez, je devais lire ça tantôt, là. Rappelez-vous, ça a rapport à ce que je viens tout de dire, j'avais oublié de lire le verset. Bon, on recommence le message. Non, mais ça a rapport, comprenez-vous. Et donc, là, on est rendu au verset 8. Montez-vous, donc là, Jésus encore qui parle à ses frères, montez-vous à cette fête, la fête des tabernacles à Jérusalem, là, ils sont en Galilée. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Il y a un temps pour laisser aller nos proches à leur plan, avec ce qu'eux autres veulent faire, puis se rappeler que Dieu est au-dessus de tout. Eux autres avaient tous leurs plans, puis Jésus, monte à Jérusalem, tu vas être mis comme roi, puis allez-y, montez, moi je vais rester ici. Mais il y a une leçon là-dedans, par rapport au fait que des fois il y a un temps propice. Parce que Jésus, on voit au verset 9, hein, après avoir dit cela, lui est resté en Galilée. Il est resté tranquille derrière. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour rester à l'écart pour prier. Puis c'est là-dessus que je veux terminer. Dans quelle saison tu te trouves en ce moment? Es-tu dans un temps de repos, d'attente? Es-tu dans un temps où est-ce que Dieu t'appelle à l'action puis à lui faire confiance en allant de l'avant? Vous savez, c'est saisir le temps. C'est pas l'affaire, « Hey, toi, tu fais rien. Toi, t'es donc bien énervé. » C'est faire ce que Dieu nous montre. Il n'y a pas ce que c'est sorti dans le temps de la pandémie. Genre, « Ah, tu aurais fait ci, tu aurais fait ça. » Non, fais ce que Dieu te montre. C'est ça, le juste vivra par la foi. Fait que je sais pas c'est quoi la saison de ta vie en ce moment. C'est-tu un temps plus d'attente? Tu peux pas faire grand-chose? Moi, en ce moment, je suis dans un... Il y a bien des affaires que je voudrais faire, mais on dirait que je peux rien faire sur tous les fronts de ma vie. C'est comme... intervenir, essayer d'agir, ça serait moi essayer de régler les choses. Dieu me met en position de m'attendre à lui. Il y a des moments au contraire où est-ce que, ouh, ça va vite, puis là, Dieu, il te fait rentrer dans ça, puis ça, puis là, OK, Seigneur, je te fais confiance, puis c'est les saisons de la vie, et c'est là-dessus que je veux terminer. Le juste vivra par la foi, c'est répondre à ce que Dieu fait, à la saison dans laquelle Dieu nous a placés. Et je veux dire quelque chose là-dessus. C'est quoi le problème? Ici, avec les frères de Jésus, on a terminé avec ça dans le chapitre 7. On va le voir plus loin, là aussi, c'était comme ça avec les gens qui l'entouraient. C'est leur familiarité avec Jésus. Ah, on le connaît, c'est notre frère. Ou ah, on le connaît, c'est le fils du charpentier. On va voir, ça vient plus loin là, dans le reste de l'Évangile. Vous savez, il n'y a rien de pire que tomber dans une place de familiarité avec Dieu et avec ses voies. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, c'est l'ennemi de la foi. Dieu a fait notre vie pour qu'on dépende de lui, pour qu'elle soit constamment un renouvellement de notre dépendance. Mais quand on est familier, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben là, je suis habitué, puis c'est comme ça, puis on est sur le pilote automatique. Donc, la réponse de Jésus, le pain de vie, c'est d'accepter, là où Dieu nous a mis, de dépendre de lui, là où il a décidé qu'on était. Que ce soit dans l'action, que ce soit dans l'attente, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, dans l'adversité, dans la prospérité, peu importe. Le juste qui vit par la foi, c'est « je dépends de Dieu là où il m'a placé ». C'est bon parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est ce que je veux amener pour conclure ce matin. Les gens ici ont eu des réactions différentes. Hein, n'est-ce pas qu'il y avait deux pas très bonnes réactions, une vraiment pas bonne. Une bonne, puis l'autre, c'était mitigé. Et je vous encourage à réagir, à répondre par la foi à ce que Dieu vous envoie en lui faisant confiance. Comme je disais tantôt, vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui arrive, mais si vous connaissez celui qui permet que ça arrive, c'est la valeur refuge. Allez vous abriter à l'ombre de son aile. C'est jamais en vain. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Avec ta parole vivante, et Seigneur, le fait que on peut toujours se confier en toi. Oui, on comprend si peu des fois de ce qui peut nous arriver, ou des fois on peut être confus, ou des fois on comprend carrément mal les choses. Oui, avec la chair, avec les distractions, toutes sortes de choses, mais merci que toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on veut venir à toi, Seigneur, et répondre à toi, par la foi, à ce que tu nous envoies. Seigneur, que cette bonne parole qui a été amenée ce matin, c'est ta parole, qu'elle ne tombe pas sans avoir fait son effet. Seigneur, fais ce que tu veux faire dans chacune de nos vies, dans notre Église, Seigneur. On veut porter du fruit à ta gloire, on veut te voir, on veut te, Seigneur, te contempler. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, on t'invoque. Et merci que dans la saison dans laquelle tu nous as placés, que ce soit l'attente, que ce soit l'action, que ce soit différentes choses, un fait reste le même, tu nous as fait pour dépendre de toi. Le juste vivra par la foi. Merci Seigneur, on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.